Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30, tout de suite les titres avec Thomas.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans les titres de votre journal, à l'aube des élections aux États-Unis, une étudiante Erasmus américaine en Belgique nous partagera son expérience du vote en distanciel et les difficultés à s'informer correctement. Le Centre d'action laïque de la province de Liège recherche des volontaires à former pour préparer des cérémonies personnalisées de funérailles laïques. Portrait d'un bénévole dans notre journal. Aujourd'hui se déroule le dernier jour du spectacle de l'artiste coréenne Bon Kim au festival Impact. Nous plongerons dans son univers théâtral ultra technologique. C'est aujourd'hui que les États-Unis vont élire leur nouveau président ou leur nouvelle présidente. Les États-Unis sont sous tension. Des barricades ont été installées autour de la Maison-Blanche. Les autorités américaines craignent une nouvelle insurrection. Lors de l'investiture de l'actuel président Joe Biden en 2021, le Capitole, siège du Congrès américain, avait été pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Ces élections ont un impact partout dans le monde. Certains électeurs américains ont pu voter depuis la Belgique. Célia, bonjour.
Bonjour.
Célia, tu as pu rencontrer une de ces étudiantes américaines en Erasmus, ici à Liège.
Oui, elle s'appelle Maria Hjelpi, elle vient de Caroline du Sud et elle fait actuellement son master en sciences politiques à l'Université de Liège. Elle vit les élections depuis la Belgique, ce qui n'est pas simple pour elle.
En tant qu'étudiant Erasmus, comment vivez-vous les élections américaines à distance sans pouvoir être physiquement dans le pays ?
C'est complètement différent de si j'avais été sur place aux États-Unis là maintenant. Je ne peux pas savoir grand-chose de ce qu'il se passe sur place à cause de la distance qui me sépare avec mon pays. Ici, en Belgique, je ne peux que me fier aux médias d'information et je pense que les sources peuvent parfois être un peu biaisées. Elles ne montrent pas vraiment l'opinion du public. J'aimerais vraiment être aux États-Unis pour pouvoir parler aux gens et avoir plus leur opinion sur ce qui se passe.
On s'imagine bien que c'est difficile. On s'imagine bien que c'est difficile, mais comment fait-elle pour rester informée sur cette situation aux États-Unis ?
Eh bien, sa première source d'information, en fait, c'est sa famille. Elle préfère d'abord avoir l'opinion de ses proches qui sont en plein cœur des événements.
Je leur demande ce qu'il se passe ou si j'entends qu'un événement s'est passé aux États-Unis, je les appelle et je leur dis « Salut, est-ce que ça va ? T'as entendu ce qu'il s'est passé ? Tu peux me donner ton avis, ton point de vue ?» Ou par exemple, si les médias européens en parlent, j'aime bien savoir si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
80 000 électeurs américains ont déjà voté à travers le monde en ce moment même. Et ce, malgré que le vote aux États-Unis n'est pas obligatoire. Célia, Maria a-t-elle choisi de voter lors de ces élections ?
Eh bien oui, elle a voté, mais numériquement, et c'est la manière la plus rapide et la plus simple. C'était plutôt important pour elle d'avoir la possibilité de le faire.
J'ai voté, mais ça m'a pris du temps de savoir si j'allais voter ou pas, car aucun candidat ne m'avait vraiment convaincue. Mais à la fin, j'ai quand même décidé de voter, car je pense que c'est un privilège de pouvoir voter. C'est la deuxième fois que je vote. J'ai déjà voté lors des élections 2020, et je pense que ce sont deux élections très controversées. Je pense aussi qu'il sera très intéressant de voir les résultats, et pas seulement pour savoir si c'est Trump ou si c'est Kamala qui va gagner. Mais je suis plus intéressée pour les résultats, car ça montre un peu vers quoi on tend dans la politique et l'opinion américaine.
Opinion in this moment. This is where they want the country's policies to go.
Comme on en parlait plus tôt, les États-Unis sont sur les rotules en ce moment. Est-ce que Maria a-t-elle ressenti ces tensions ?
Alors évidemment, la tension est palpable pour tous les Américains. Les discours sont très polarisés, peut-être de plus en plus selon Maria.
Est-ce que vous avez remarqué une évolution ou une différence entre les deux élections ?
Je dirais qu'elles sont tout autant controversées l'une que l'autre, mais je pense que celle-ci est peut-être encore plus controversée que la dernière, car j'ai l'impression que chaque année, les médias et les politiques sont de plus en plus extrêmes dans leurs discours. Et je sais que cela influence beaucoup la vie des électeurs. Donc oui, je pense qu'au niveau de la controverse, cette année, elle est encore pire que la dernière.
Slightly more intense this year.
Merci beaucoup Célia pour ce long entretien. Dans le reste de l'actualité, Bart De Wever s'est rendu face au roi hier afin de quitter sa fonction de formateur fédéral. La raison, une énième tentative de négociation avec les quatre autres présidents de parti qui ne mène à rien. Un coupable est désigné, Conor Rousseau, président de Voorhout. Ce dernier paralyserait les négociations visant à la formation du nouveau gouvernement. Cette situation dure depuis déjà des mois et Bart de Wever n'en peut plus. Mais le roi n'a pour autant pas accordé sa démission au président de la NVA, lui laissant une semaine pour réfléchir. Le centre d'action laïque de la province de Liège est à la recherche de nouveaux volontaires pour l'organisation de leur cérémonie funéraire. Des bénévoles chargés de rencontrer les familles et de les accompagner dans le moment de deuil. Emma Puma a rencontré René Spirlet, l'un de ces bénévoles.
Moi, je pars du principe que personne ne devrait partir comme Mozart. On dit que le corbillard de Mozart était suivi par un chien. C'est pas possible.
René Spirlet accompagne les proches en deuil depuis une quarantaine d'années. Il construit avec eux un cérémonial, souvent enrichi de textes, de musique, voire de vidéos, reflétant la personnalité du défunt.
J'ai eu de nombreux exemples du fait qu'un cérémonial, au moment du décès d'une personne, ça aide les survivants.
Certains hommages l'ont particulièrement marqué. Il se souvient notamment d'un cérémonial organisé pour un enfant de 9 ans, mort d'une leucémie.
Cet enfant s'était lié d'amitié avec un club de motards. J'ai vu arriver le corbillard avec tout un troupeau de motards qui lui ont rendu l'hommage des motards, c'est-à-dire le casque brandi à bout de bras et puis ont fait hurler les moteurs. Quand j'en reparle, j'ai encore la chair de poule.
Pour remplir ce rôle, il faut faire preuve d'une certaine empathie, mais René l'assure, parce qu'il s'agit d'inconnus, la tristesse laisse rapidement place à la gratitude.
Dans la mesure où, à chaque fois, j'ai des remerciements, ça aide à évacuer les sentiments négatifs. C'est pour ça que c'est gratifiant.
Et si cela vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 novembre pour soumettre votre candidature. L'équipe du Feel Good Festival a fait aveu de faillite sur les réseaux sociaux ce lundi. Le festival de cette année avait déjà été reporté à 2025 pour cause de mauvais temps. Cela n'était pas la première fois que le festival essuyait des mauvaises nouvelles, la crise du Covid n'ayant pas aidé. Ce report, une promesse permettant d'éviter de devoir rembourser les festivaliers, a semé le doute quant à la situation financière de l'ASBL à la tête du festival. Cette annonce de faillite a donc l'effet d'un coup de massue pour ceux qui espéraient passer du bon temps à Huawei. Le festival Impact, lui, a bien eu lieu à Liège. Ce soir, vous aurez l'occasion de découvrir pour la dernière fois l'installation de l'artiste coréenne Bon Kim, un festival ultra technologique qui imagine pour cette 6e édition le monde d'après, notre ère du numérique, un reportage de Morgane Pérez.
Derrière un écran transparent sur lequel se projettent des hologrammes et entouré d'un rideau de tuyaux industriels, les danseurs de la chorégraphe sud-coréenne Eunmeo Han ouvrent le bal avec Dragon. Cette année, le festival fait un focus sur la Corée du Sud. Jonathan Tonon, directeur artistique du festival.
Effectivement, c'est un pays où le développement technologique est extrêmement rapide, où il y a pas mal d'argent qui sont investis dans la recherche technologique en lien avec l'art et les arts visuels et les arts de la scène également.
Hoverboard, mapping sur écran et accessoires high-tech, des technologies accompagnent les mouvements corporels des danseurs. Ils sont tous nés en l'an 2000, année du dragon, et ce spectacle imagine cette figure mythologique asiatique dans un futur ultra connecté.
Il faut savoir que le théâtre a toujours été lié aux technologies, c'est depuis ses origines une grande machine technologique. Ça a été là qu'on a fait des inventions telles que les poulies et puis l'électricité.
Depuis sa création en 2016, Impact interroge les rapports du théâtre aux technologies. Chaque création artistique du festival intègre un dispositif théâtral différent, une technologie de son temps.
On a des expériences qui sont parfois très différentes, des expériences plus immersives ou en tout cas qui questionnent la place du spectateur. C'est un festival vraiment qui fait littéralement sortir le théâtre de ses murs et qui l'interroge dans ses formes, dans ses formats.
Mélange de tradition et d'évolution technologique, Impact réinvente la création théâtrale jusqu'au 16 novembre aux quatre coins de Liège.
Revenons à présent sur l'affaire Nekfeu.
Fermé mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb.
Hier Emma, le rappeur français a répondu aux accusations accablantes de son ex-femme.
Oui, le rappeur français Nekfeu est accusé de faits de violence psychologique, sexuelle et physique par son ex-compagne. Les faits se seraient déroulés pendant la durée de la relation, soit près de 4 ans. C'est en tout cas ce qu'a révélé un communiqué de presse posté sur X dans la soirée du 3 novembre par l'avocate de la plaignante. Hier, Nekfeu y a répondu. Il dément les faits reprochés par son ex-femme, qu'il qualifie d'accusations infondées et choquantes. L'affaire fait maintenant grand bruit sur les réseaux sociaux.
Et pour terminer sur une note plus légère, les résultats du prix Goncourt sont tombés, Emma ?
Oui, le prix a été attribué hier au romancier franco-algérien Kamel Daoud pour son roman Ouris, un livre sur la décennie noire en Algérie. Il a été choisi par le jury au premier tour, récoltant 6 voix sur 10. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'écrivain Philippe Claudel, le président de l'Académie Goncourt.
Très bien, merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à demain sur 48FM.